Chapitre 12. Et ensuite il y eut des années et des années, lentes, puis plus rapides, puis plus fiévreusement hâtées, à mesure que j'étais moi-même moins enfant. Et je revis souvent dans ma mémoire mon père comme je l'avais vu ce soir-là, emporter sa femme entre ses bras, si légère, si enfantine. Et légère et enfantine, elle le resta longtemps, et je crois même toujours. Quand elle rentrait, au déclin de l'après-midi, et que j'étais plus grand, je ne lui demandais jamais, comme mon père le faisait machinalement, « Qu'as-tu fait aujourd'hui ?» parce que j'avais peur qu'elle hésitât au bord d'un mensonge. Et peut-être pourtant n'a-t-elle plus jamais menti, je ne sais pas. Et les choses se pacifièrent peu à peu, du temps passa, il y eut un déchirement et une séparation, et je restais seule avec ma mère. Mais l'année suivante, ces deux êtres qui s'étaient réunis, Dieu seul sait pourquoi, se retrouvèrent pour ne plus se quitter. Cela se passa dans un jardin bas et humide, dans le même jardin sombre où chacun tour à tour a sa place. C'était à la fin d'un automne très froid, si trempé lui-même de larmes que les feuilles mortes ne se séchaient pas mais pourrissaient dans la boue. C'était à la fin d'un automne très maussade et très pluvieux, et j'ai de bonnes raisons pour me souvenir de lui. Je voyageais. Et un soir, me trouvant à Paris et me sentant atrocement seule et abandonnée, par désœuvrement et avec l'espoir de me distraire peut-être un peu, j'entrai dans un café-concert. Je suivis la foule du promenoir, indifférent, ennuyé, bousculé par les femmes. Là, de cette cohue, je m'installai dans un coin plus tranquille. Près de moi, un homme était assis devant une table où moussait un boc. Il se tenait légèrement voûté et regardait en face de lui sans rien voir. De sa canne, il faisait machinalement des dessins sur le sol. Je ne sais pourquoi il leva la tête, nos yeux se croisèrent, il fixa sur moi un regard dur, aigu, pénétrant, sans indulgence et sans sympathie. Je tressaillis. Ce regard semblait forcer ma mémoire, venir du fond de mes années. Où donc l'avais-je vu? Cette figure m'était étrangère, mais non point ses prunelles profondes et douloureuses. Je considérais mieux l'inconnu. Il semblait triste. Il était vêtu avec négligence. Mais comme dans un moment de distraction, il avait laissé tomber sa canne, je m'aperçus qu'elle portait à la poignée une tête d'aigle. Et soudain, un brusque éclair me montra le grand jardin baigné de soleil, le lac où se promenaient les cygnes. Je revis ma jeunesse et ma mère avec sa plus belle robe, celle que mon père aurait tant voulu qu'elle portât le dimanche. À ce moment, l'inconnu m'examina de nouveau, comme en cherchant. Mes yeux trop bleus dans une figure brune, que lui rappelait-il ? Sans doute fixais-je sur lui le même regard étonné, curieux, indécis que l'enfant d'autrefois. Comment ne m'eût-il pas reconnu? Ma ressemblance avec ma mère était si frappante. Et comment n'en eût-il pas été troublé? J'étais en grand deuil. Il se leva brusquement et fit un pas vers moi. Puis se ravisant, il appela le garçon, et comme il tardait à venir, je le vis qui s'impatientait. Il semblait plus triste encore. Avait-il devant les yeux sa jeunesse, sa tendresse, sa lâcheté, tant de souvenirs âcres et sombres? Quand il eut payé, il s'en alla sans tourner la tête vers moi, là et voûté. Et alors j'eus l'étrange pensée que cet homme était le seul être au monde, le seul, qui songea encore parfois à celle qui n'avait pas cessé de vivre dans mon cœur. Et j'eus soudain un grand regret de n'être pas allée vers lui et de ne pas avoir serré sa main, tout simplement comme celle d'un vieil ami.